J'ai jamais vraiment été du genre à suivre les recettes. Mais la première fois que tu fais quelque chose, tu suis quand même la recette pour savoir la base. La première fois que j'ai fait du riz, j'ai vraiment suivi la recette à la lettre. Mais j'ai juste un petit peu confondu une cuillère à table avec une tasse. Fait que dans mon premier riz, il y avait une tasse de margarine. Bonjour et bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Chaque semaine, on vous concocte des reportages, vox pop, chansons, histoires, blagues et de que c'est. Cette semaine, le mot c'est recette.
De tous les mots qu'on a traités ici depuis le début de la saison, recette est sans doute celui qui compte le plus de sens différents. Une recette, c'est entre autres le total des sommes d'argent reçues, le bénéfice qu'on fait avec quelque chose. Ainsi, faire recette dans le monde du spectacle, c'est de pas arriver dans le rouge. Recette, c'est aussi le large palier dans un puits de mine où sont reçus les produits d'exploitation, comme le charbon. Et recette, c'est aussi la formule et la manière de préparer un remède. Mais comme tout ça, c'est ben plate, on va plutôt passer l'émission à parler de nourriture, parce que oui, recette, c'est aussi l'indication détaillée de la manière de préparer un mets. D'ailleurs, le mot recette lui-même est un peu une recette puisqu'il tire son origine d'un mélange de provençal, d'espagnol, de portugais, d'italien et de bas latin. Alors prenez-vous un crayon et un papier à la maison parce que cette semaine, on se prend pour les Taillefer, les Mamandillons et les Ricardo de ce monde et on jase recette.
About ça, je peux
vais commencer par mêler les ingrédients.
Oui, avec leur volume ou pas. Donc, 125 ml de lait, un bâton de cannelle, une lanière de zeste d'orange, 4 clous de girofle, 10 ml d'extrait de vanille, une boîte de 425 ml de lait condensé sucré, aussi appelé Eagle Brand, 7 ml de sauce au piment tabasco et 500 ml de crème 35% fouettée.
C'est quoi le nom de cette recette-là?
La crème glacée relevée.
Relevée dans le sens où c'est de la crème glacée au tabasco. OK. Un classique dans ta famille?
Un grand classique. Ma sœur a gagné un livre de recettes. Je me rappelle plus sur pour quelle raison qu'elle a gagné. Et c'est un livre de recettes plein de recettes de tabasco. Et à la fin, il y avait un dessert qui était la crème glacée relevée au tabasco. Puis on l'a fait. Et dès qu'on l'a fait, on est devenu addict. C'est une recette qu'on fait régulièrement chez nous.
Ça vient donc d'un livre de recettes de tabasco.
Exact.
Est-ce qu'il y avait d'autres bizarreries comme ça?
Franchement, je m'en rappelle même pas. J'ai aucune idée quelles autres recettes il y avait. Je sais même pas si on a fait d'autres recettes dans le livre à part la recette de crème glacée.
Qu'est-ce que ça goûte?
Ça goûte vraiment bon. Le tabasco fait juste donner un petit côté piquant. Fait que c'est la vanille, le girofle, la cannelle puis le zeste d'orange qui donne un petit côté épicé, mais dans le sens épicé, là, pas dans le sens piquant, là, qui est vraiment très agréable. Alors, tu prends une bouchée de cette crème glacée-là qui est hyper onctueuse, très ronde en bouche, vraiment bonne. Et ça goûte ça, les épices, c'est bon. Et après, tu l'as avalé, là, bang, piquant.
L'avez-vous fait goûter à des gens de l'extérieur?
Absolument. J'ai fait un party à un moment donné où j'avais fait des profiteroles maison avec la crème glacée au tabasco dans mes profiteroles. Et on en parle encore comme d'une grande découverte. Et juste avant de partir, j'étais avec des amis tantôt, puis là, je parlais de ma crème glacée au tabasco. Et une personne dans toute la gang n'avait pas goûté à ma crème glacée, a eu une réaction comme on s'y attend, arc. Et les autres qui ont dit non, t'as pas goûté à cette crème glacée-là, elle est vraiment bonne. J'ai suivi un cours à l'université qui s'appelait Gastronomie et Société. Et l'examen, le travail de fin de session, c'était de faire un repas et de présenter à la classe et de faire goûter à la classe. Et j'ai fait la crème glacée au tabasco comme travail de fin de session qui m'a donné un A+. Donc, c'est une crème glacée en plus académiquement très certifiée, exactement. Et c'était vraiment intéressant parce que la molécule qui fait le piquant va être neutralisée non pas par l'eau parce qu'il n'est pas soluble à l'eau. Fait que c'est une erreur quand on mange des choses piquantes de prendre de l'eau parce que ce que ça fait, c'est que ça répartit la molécule dans ta bouche, donc ça perpétue le piquant. Faut plutôt y aller avec de l'alcool ou des produits laitiers. Donc, la crème glacée au tabasco a ça aussi comme particularité puisque c'est un produit laitier piquant. Fait que ça s'auto-neutralise au fur et à mesure que tu le manges. Donc, c'est pas très agressant, c'est plutôt juste très bon.
Éric Sanson, on a les deux ingrédients de ta recette, soit le Nutella et les Tostitos, et on est dans un food court du complexe des Jardins pour goûter finalement à la chose.
Donc on va prendre un Tostito. Est-ce qu'on s'est dit au singulier un Tostito?
Ouf.
Voilà. Je vais faire une démonstration avant tout pour te montrer la quantité adéquate à mettre. Ça va à peu près dans ces eaux-là. On humecte. C'est ça, on y va pas avec un gros scoop complet de Nutella parce que sinon ça va être tout bonnement désagréable. Et bon appétit.
Ouais. Écoute, c'est pas mauvais. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, du Tostitos c'est bon, du Nutella c'est bon. Puis...
Oui.
Je vais essayer une autre pendant que tu m'expliques l'origine.
L'origine de ça, en fait, comme tu peux t'en douter, ça date de quand j'étais au cégep. C'est une fin de soirée. On avait un petit peu faim, comme il arrive parfois à des étudiants au cégep d'avoir faim en fin de soirée. Et on a décidé, ça s'est fait tout à fait organiquement, là, de prendre des Tostitos, de prendre du Nutella, de faire comme « ça va être malade ». Donc, on l'a essayé et effectivement, on est passé au travers des deux sacs de Tostitos et du gigantesque pot de Nutella qu'il y avait donc à notre disposition à cet endroit-là. Et quand je me suis rappelé de la chose le lendemain, je me suis dit, est-ce que c'était une bonne idée vraiment ou est-ce que c'était juste parce que on était un peu altérés? Et j'ai donc refait l'expérience tout de suite le lendemain et je suis tombé en amour avec ce concept-là. Ouais.
Et dans la cuisine mexicaine, il y a quand même le mole, je crois, qui est une espèce de salsa au cacao.
Voilà, donc on est vraiment pas dans quelque chose qui est si dramatiquement exotique que ça, là. C'est juste que c'est deux mélanges que les gens ne font pas. Et justement, quand j'en parle, c'est très mal reçu. Tout le monde fait comme « wesh », c'est dégueulasse, parce que dans notre tête, on pense, ben, quand j'ai Tostitos, souvent on pense Doritos, et effectivement, je pense que ce mélange-là serait absolument affreux. À cause de l'association Tostitos et tomate, donc dans la salsa, c'est pour ça qu'on se dit que ça va pas être bon, mais tu vois, tu continues à en manger, puis tu sembles tout à fait satisfait, là.
Est-ce que tu as essayé d'autres combinaisons étranges avec le Nutella ou les Tostitos?
Mais les Tostitos à la lime avec le Nutella, ça c'est du deuxième niveau.
T'as déjà essayé?
Oui. Personnellement, je suis un gros fan de lime. J'aime vraiment le goût de la lime et j'en mettrais à peu près partout. Donc, pour moi, c'est juste une valeur ajoutée que de mettre de la lime dans n'importe quoi. Mais voilà, je vais prendre un autre. Hein. J'aime vraiment ça.
Faisons un dernier chin.
Mm-hmm. Oh, miam. C'est bon.
Et c'est la fameuse formule du jour de loin, sucré.
Sucré salé. Et voilà.
Ben, merci beaucoup, Éric Sanson.
Ça me fait plaisir.
Animateur de La Swamp à CISM. Mm-hmm.
LaSwamp.com. Sinon, on est en onde le jeudi de 4 à 6. Voilà.
Dans la cuisine, avec Nadine.
Aujourd'hui, on est le 6 décembre, puis le thème, c'est recettes. Puis comme on approche du temps des fêtes, je me suis dit que ce serait bien de faire une recette de Noël.
Mais quelle excellente idée, Nadine. On fait quoi? On fait une dinde, on fait une bûche, on fait du sapin?
Mieux que ça, Mathieu, on va faire ce fameux dessert que tout le monde déteste, le style gâteau aux fruits.
Oh.
Écoute, Mathieu, là, tout le monde aille ça, avec raison, parce que ça goûte la marde. Ben moi, je veux démystifier cette marde-là. C'est quoi, puis comment on fait ça? Un hostie de gâteau aux fruits.
OK.
J'aime ton enthousiasme! Bon, premièrement, à quoi tu penses si je te dis fruits?
Oh, je pense à des pommes, des oranges, des poires, des fraises, des bananes, des mangues, des ananas, du litchi, des canneberges, des pêches.
Ben, oublie ça! Ça, il n'y a pas de ça dans l'hostie de gâteau aux fruits. Il y a juste des fruits confits, ou plus précisément, des cerises confites.
Mais Nadine, pourquoi utilise-t-on des fruits confits dans l'hostie de gâteau aux fruits?
Pour pas gaspiller de vrais fruits.
Oh!
Anyway, des cerises confites, là. Peux-tu appeler ça un fruit quand tu fais macérer des cerises dans un litre de sucre pendant 10 jours? Puis là, j'en connais qui vont vouloir être bio, santé locale, homemade, puis ils vont vouloir faire macérer leurs cerises tout seuls comme des grands pendant 10 jours. Hey! Il fait soleil dehors! Va prendre une marche! Prends des cours d'aquarelle, va faire 12 longueurs de piscine, va voir un film, colle une bière avec tes chums, tire sur quelqu'un, mais calisse! Confie pas tes fruits toi-même!
Mais Nadine, il y a aussi des fruits secs et des amandes dans les hosties de gâteau aux fruits.
On s'entend-tu que ça goûte le siège d'autobus pareil?
Ah, ça oui.
Bon. Puis tu sais c'est quoi le secret pour réussir son hostie de gâteau aux fruits, Mathieu?
Non, qu'est-ce que c'est?
Faire vieillir son gâteau aux fruits, le laisser traîner une couple de semaines sur le comptoir.
Dégueulasse!
Dans la recette que j'ai trouvée dans le guide de la cuisinière Five Roses, il y a 2 pages consacrées à des explications pis des mises en garde sur le gâteau aux fruits. On n'a même pas encore commencé la recette, là! Ça explique que 3 semaines devraient suffire pour faire vieillir le gâteau aux fruits.
3 semaines? Mais comment je peux prévoir 3 semaines à l'avance que je vais apporter un gâteau aux fruits dans un croque-pot de Noël alors que j'achète tous mes cadeaux de Noël le 24 décembre au Jean Coutu en allant à la soirée?
Exactement, Mathieu. Le seul plaisir de ces fruits confits, c'est l'alcool qui vient avec le confit de la chose. Pour préparer un gâteau aux fruits, il va falloir 1 litre de brandy, 4 tasses de rhum, 1 bouteille de vin rouge, 3 shooters de vodka.
On met tout ça dans un seul gâteau?
Non. Ça, c'est pour boire pendant et après, histoire d'oublier que t'es en train de faire un hostie de gâteau aux fruits. Sers-moi un verre de brandy pendant ce temps-là. Je vais commencer à parler de la préparation de la pâte.
Alors ça, c'est quand même important parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques qui aux noix, qui aux œufs, qui au gluten.
Non, parlons-en justement. Là. Si je m'étais appelé Ricardo, là, je vous aurais proposé 28 sortes de pâtes différentes. Sans gluten, sans sucre, avec farine de sarrasin, sans farine blanche, sans utilisation de lait ou d'œuf, avec quinoa. Mais avant, je vais vous dire une chose. Hey! Wow, là! On fait un hostie de gâteau aux fruits, pas une salade verte avec une vinaigrette à l'air! Mathieu?
Oui?
Brandy, mon verre est vide.
Bon.
Pour la recette, va nous falloir 3 bols en métal, 2 cuillères en bois, 1 planche à découper, 2 chaudrons, puis 3 semaines d'attente. Puis pendant que tu me sors tout ça, Mathieu, je vais remplir du temps d'antenne en faisant une liste de choses qui sont plus agréables que de manger de l'hostie de gâteau aux fruits. Se faire arracher un ongle incarné, jaser criminalité avec Pierre-Hugues Boisvenu, essayer de sortir du stationnement du Carrefour Laval un 23 décembre à 21h, jouer à Ouija, écouter, regarder ou même goûter le dernier disque de Hugo Lapointe, jaser business avec Vincent Lacroix, poursuivre Sinard, se faire intimider au secondaire, se faire intimider par Sinard et Vincent Lacroix au secondaire, intimider Hugo Lapointe, apprendre dans le journal de Montréal que Wilfred fait un retour dans un album de reprise en duo, aller au salon de l'habitation.
Bon, c'est bon, je pense que j'ai tout le matériel ici.
Ben, j'avais vraiment pas fini, il y a plein d'autres affaires plus fun que de manger du gâteau aux fruits, telles que se faire piler sur le pied par le grand Antonio, même mort, prendre une crème de menthe, flatter des lapins, passer un pap test, faire une liste de choses plus agréables que de l'hostie de gâteau aux fruits, entendre rire les grandes gueules à radio, avoir des bas qui glissent dans ses souliers, être végétarien, manger bio, faire de l'exercice, puis mourir d'un cancer pareil avant 32 ans.
Bon, ben Nadine, c'est
non, tout. Non, avoir un débat philosophique sur Twitter.
C'est tout le temps qu'on
Michel
avait.
Blanc.
Merci pour cette recette d'hostie de gâteau aux fruits. On se revoit la semaine prochaine.
Apprendre quelque chose de Dominique Carpin, laver des ustensiles, être derrière un gars qui prend 50 photos de merde avec son Blackberry dans un show. Faire un concours des chasses, tremper cette hostitose dans le Nutella.
De charme. Qu'est-ce que le pain bourré?
Alors, le pain bourré, c'est un pâté chinois dans un pain de ménage. Et on badigeonne ça au four d'une sauce béchamel. C'est ça, la recette.
Donc, un pain de ménage, on va à la boulangerie, on achète les gros pains
ronds.
Oui,
les gros pains, exactement. C'est pas une miche, hein? C'est vraiment... C'est les gros pains de ménage où il y a beaucoup de mie. Là. Ça, on enlève la mie, ça, c'est formidable. Et puis, on fait donc un genre de boulette de mie. Une fois que le pain est complètement dégagé de sa mie, là, c'est là-dedans qu'on met donc le pâté chinois, qui évidemment ne ressemble plus à un pâté chinois. Là. Les pommes de terre sont plus sur le dessus. Là. Tout ça est... Ça fait comme un... C'est mélangé, là, n'est-ce pas? Et puis, et donc, pour fermer la porte, si on peut dire, du pain de ménage, on remet la mie. Alors, d'ailleurs, on appelle ça un pain bourré, parce que ma mère, je pense qu'elle osait pas dire fourré à l'époque, là, mais c'est un pain fourré, en fait. C'est un pain fourré d'un pâté chinois traditionnel. Et comme c'est sec un peu, ma mère ajoutait donc une sauce béchamel, qui en général n'a pas de grumeaux. Moi, quand je l'exécutais, il y avait énormément de grumeaux. On le sait maintenant, c'est une recette de pauvre, en fait. On était nous 10 à la table, alors ma mère, mon père gagnait, je pense, 6 000 $, alors c'est sûr et certain que ne mangeait pas des steaks tous les jours. Mon père mangeait des steaks quand même, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais nous, je vais dire un truc, on adorait ça, on trouvait ça merveilleusement bon. C'est sûr que c'était très bourratif, hein? C'était un pain bourratif, en fait, qu'on mangeait. Mais c'est vraiment une recette de pauvre. Alors, le vendredi, on mangeait du poisson. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on mangeait du pain bourré.
T'as fait cette recette-là une seule fois dans le but d'impressionner quelqu'un. Ça a bien été?
Pas vraiment. C'était l'anniversaire d'une amie. Moi, je ne fais jamais à manger. Donc, j'ai pris congé et pendant tout le temps que je faisais la recette, comme je ne l'avais jamais faite, j'ai dû avoir ma mère. Moi, j'étais à Montréal, ma mère était à Québec. Donc, j'ai eu à avoir ma mère au téléphone pendant toute la durée de la recette, qui normalement prend quoi? Ça doit prendre 1 heure faire tout ça. Alors que moi, ça m'a pris à peu près 4 heures. Je mets tout ça au four, ça brûle un peu. Comme je le disais, il y a un peu de grumeaux dans la sauce, mais je suis quand même assez fier, je l'ai réussi. Ma mère m'applaudit au téléphone, mon ami arrive. Je lui annonce que je lui ai fait un pain bourré. Évidemment, elle ne sait pas du tout ce que c'est. Elle l'a mangé. Ça a pris un certain temps. Elle l'a mangé. Mais j'ai une énorme déception quand je lui ai proposé d'avoir une deuxième tranche. C'est quand on aime ça, on en offre une deuxième tranche. Et malheureusement, elle a dit, je crois que j'ai assez mangé. C'est là, à 22 ans, que j'ai compris que je n'allais jamais faire à manger et que vivement, les traiteurs apparaissent dans ma vie. Malheureusement, je ne trouve pas de pain bourré, hein. Je trouve du pâté chinois, là, mais c'est pas pareil. Ça goûte pas du tout la même chose. Le petit côté sec que le pain ajoute, là, quand il est un peu brûlé, là, c'est vraiment spécial. Vraiment. Je te le conseille.
Peut-être.
T'as l'air convaincu.
Avec l'ail, ou si on n'en veut plus, on frotte avec le gros sel, ou alors on met le crouton dans la salade. Eh bien, pour ceci, on prend son morceau d'ail, encore une fois, un morceau de pain sec, et on le frotte comme il faut, de tous les côtés, jusqu'à ce qu'il sente l'ail, et ça sent très bon. On appelle ça faire un chapon. Alors, c'est toujours le petit morceau que tout le monde se chamaille pour avoir, et on ne peut pas en mettre plusieurs, parce que s'il y en a trop, alors là, ça goûte carrément trop l'ail. Eh bien, quand l'histoire de l'ail est finie, on met du poivre. Et de préférence, toujours du poivre frais moulu.
Cette voix au perché et au air bien roulé, c'est celle de Madame Encyclopédie de la cuisine en personne, Jeanne Benoît, née Jeanne Patnaud en 1904. C'est pas mal sûr que vos mères, ou même vous, avez en votre possession un exemplaire, peut-être tout défraîchi, de son Encyclopédie de la cuisine canadienne. Après tout, il s'en est vendu plus 1,5 million de copies depuis sa sortie en 1963. En gros, là, Jeanne Benoît, c'est pas mal la Josée DiStasio des années 50, 70 et même 80. Les experts du milieu de la gastronomie s'entendent pour dire que c'est elle qui a montré aux Québécois et même aux Canadiens, parce qu'elle était parfaitement bilingue, comment cuisiner avec autre chose que de la mélasse et du saindoux.
Eh bien, pour faire une salade, comme je viens de dire, il faut d'abord avoir un bon fond, une bonne vinaigrette. C'est vraiment l'essence de la salade. Mais la façon parfaite de faire est celle-ci. Vous pouvez très bien mettre tous les ingrédients dans un bol salé, poivré, ajouter ci et ça. Mais là, il faut être bien, bien habile pour faire ça. Il faut avoir fait beaucoup de salades, au moins 6 000. Alors, si quand vous aurez fait ça, vous saurez bien faire une salade, vous pouvez les faire presque les yeux fermés.
Jeanne Benoît est née et a grandi à Westmount, dans un milieu aisé. Bien vite, elle a filé vers Paris pour étudier au pensionnat Le Cordon Bleu, puis à l'Université de la Sorbonne, d'où elle sort diplômée en chimie alimentaire. C'est durant ce séjour qu'elle va s'initier à la cuisine française, évidemment, mais aussi aux autres cuisines en visitant l'Angleterre et la Grèce.
À son retour à Montréal dans les années 30, elle fonde une école de cuisine qui s'appelle « Le Fumet de la Vieille France », puis un restaurant, le Bar à Salade. C'est l'un des premiers restaurants canadiens à se spécialiser dans la cuisine végétarienne.
Moi, Mme Benoît, quelles sont toutes ces mauvaises herbes que vous avez sur la table là-bas?
Je veux dire des bonnes herbes. C'est important pour aromatiser la salade. Ici, j'ai de la menthe fraîche qui est délicieuse et qui se cultive si facilement. Et ici, c'est de l'aneth, jeune aneth, ou ce qu'on appelle le dill en anglais. On le connaît beaucoup mieux sous ce nom. Et du cresson, qui est l'herbe française. Enfin, c'est délicieux dans une salade aussi. Et du persil, ça, on n'en met jamais trop. C'est de la vitamine A, de la vitamine D.
Et dire que j'ai osé appeler ça des mauvaises herbes.
C'est au début des années 50 que Joanne Benoît commence la rédaction de livres de recettes. Si on peut appeler ça des livres de recettes. Parce qu'en fait, des chapitres complets de son encyclopédie de la cuisine sont consacrés à l'histoire des aliments, leur chimie, les méthodes de cuisson, le choix des instruments, et on en passe. Elle inclut même des recettes plutôt inusitées comme l'écureuil au vin blanc. Et bien sûr, on y trouve aussi les classiques, comme la poule au pot.
Ça, c'est le bouilli du Québec. Le bouilli du Québec vient de la poule au pot. La poule au pot, c'est français. On n'y met pas toujours du lard salé. On met toujours du chou, mais on ne met pas tout à fait... Par exemple, on ne mettrait pas d'haricots verts en France, dans la poule au pot. C'est tous des légumes racines qu'ils appellent. Le salsifis, le panais, la carotte, etc. C'est tout ce genre, le navet. Mais on ne met jamais de légumes. On met un peu de carotte, mais pas tellement. On ne met pas de petits oignons, on ne met pas d'haricots verts ou de choses de ce genre. Et ensuite, l'arôme...
Pour la poule au pot.
Ça, c'est la poule au pot.
Avec ses manières un peu rustres et ses grosses lunettes à monture noire, Joanne Benoît devient une star de la télévision des années 60. On la voit, autant en français qu'en anglais, dans des émissions comme « Femmes d'aujourd'hui »,« Bonjour Madame »,« Au jour le jour »,« Les Marmitons »,« Take 30 » et « The Young Chiefs ». Il y a même des fabricants qui la remarquent et qui font appel à elle pour publier des livres comme « La bière Dow » et « Le riz Denty ». Et là, si on était dans une musicographie, ça serait le moment où le narrateur dirait « Et Joanne Benoît amorce une lente descente dans les enfers de la drogue. » Sauf qu'au lieu d'être l'enfer de la drogue, c'est l'enfer du micro-ondes. Parce que, air du temps oblige, elle découvre le micro-ondes et publie en 1975 « La cuisine au micro-ondes ». Son premier livre sur le sujet, suivi 10 ans plus tard d'une encyclopédie en 6 volumes consacrée à ce type de cuisson. C'est vraiment à partir de ce moment-là que la cuisine au micro-ondes commence à remporter un succès bœuf. Tellement que Joanne elle-même avoue en 1985 que, ouvrez les guillemets, « tout est tellement meilleur au micro-ondes ». Et elle fait même, dit-elle, cuire 90% de ses aliments dans le micro-ondes. Et c'est pour ça que le fabricant Panasonic l'a embauché illico pour faire la promotion de ses appareils à la télé.
Le Genius Dimension 4, voilà!
Joanne Benoît est morte dans sa maison de Sutton dans les Cantons de l'Est en 1987 à l'âge vénérable de 83 ans. Elle laisse derrière elle 25 livres de recettes, un grade d'officier de l'Ordre du Canada qu'elle a reçu en 73 et, bien évidemment, toute une génération de femmes et d'hommes à qui elle a appris à faire cuire autre chose que du gruau ou de la soupe Campbell en conserve. Et puis avouons-le, ce qui a fait de bien avec elle, c'est qu'elle s'était jamais compliqué la vie. Par exemple, vous êtes un fan de bacon ou de lard salé et vous vous sentez coupable? Ben, il n'y a juste pas de problème. Parole de Joanne.
Et vous mettez le morceau de lard salé. Vous pouvez en mettre une livre, deux livres, trois livres, c'est à votre gré, ça. Ceux qui aiment beaucoup le lard, en mettent davantage. Alors, vous mettez le lard à côté, puis là, vous allez amener ceci à bonne ébullition. Vous avez un bouquet de thym et de sarriette. Moi, je mets toujours un peu de thym.
Je montre comment la tourtière est née. Quand est-ce qu'elle est née? C'est-à-dire que... Elle fait partie vraiment des premières recettes connues de l'humanité, puisque ces recettes-là ont été retrouvées sur des tablettes d'argile, donc en Irak.
Jean-Pierre Lemasson était responsable jusqu'à tout récemment du certificat de gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie à l'UQAM et auteur de l'incroyable Odyssée de la tourtière.
Et que leur datation au carbone 14 montre qu'elle...
La tourtière en Irak.
Oui. Oui, ça semble aujourd'hui, on a du mal à imaginer, mais oui, parce que ces recettes ont été enfouies dans le sable par la suite et n'ont pas été détruites, c'est comme ça. Donc, et c'était des recettes essentiellement de soupe qui étaient servies à la cour et 3 recettes de tourtière. Et donc, on a trouvé là la première recette de tourtière que l'auteur a appelée la tourte petits oiseaux. C'est-à-dire que vous avez une abesse, donc une pâte faite à partir de céréales, sur laquelle il y avait des petits oiseaux et des petits morceaux de pain qui faisaient ce qu'on appelle l'appareil. Et vous aviez une autre abesse, donc qui fermait, qui était au-dessus. Et donc vous aviez les trois strates fondamentales. En plus, c'était rond. Et donc ça, c'est tout à fait, la forme est tout à fait importante. Donc nous voilà en présence de la première, parmi les premières recettes de l'humanité.
Au Québec, parce que là, on a quand même une attache là, à la tourtière au Québec, au lac Saint-Jean. Donc, c'est arrivé quand, ça? C'est arrivé avec les premiers colons?
Les colons français, sans aucun doute, sont arrivés. Alors, au début, le problème, c'était que pour faire une bonne tourtière, il vous faut un bon four. Et il vous faut des bons plats métalliques. Les Amérindiens ne connaissaient pas le métal et ne connaissaient pas le four de boulanger tel qu'on le connaît. Donc, il a fallu que les colons puissent à la fois semer du blé, à la fois construire leur four, puis et les instruments métalliques. Alors, ce n'est pas au tout début de la colonisation, donc, disons à partir de 1608, mais probablement assez rapidement, peut-être dans les années 1630-1640, il y a des colons. La recette de la tourtière, de la tourte, était connue donc des immigrants français. Et donc, assez rapidement, il fallait aussi avoir assez de viande pour faire une vraie tourtière. Hein. Alors, ça dépend si on parle de celle du lac Saint-Jean ou de celle que les Saguenéens, très méprisants, disent le pâté de viande, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Alors, la différence entre la tourtière du lac Saint-Jean et l'autre, la modeste tourtière du peuple, c'est la quantité de viande qu'on y met et la hauteur du plat, hein, et donc évidemment les temps de cuisson, etc., etc. Or, depuis le début, parce que là je vous raconte pas toute l'histoire, mais ce qu'on a vu quand on suit l'histoire de la tourtière, c'est qu'effectivement il y a la modeste tourtière qui se mange, qui est pas chère, qui se fait cuire rapidement, etc. On pourrait dire que c'est la tourtière de l'ordinaire, et puis vous avez la tourtière festive, elle, où on met ce qu'on a de meilleur, etc., et qui a été la tourtière aristocratique, très rapidement, qu'on a retrouvée dans toute l'Europe, et qu'on a appelée la tourte parménienne, par exemple. Alors là, c'était effectivement des chaudrons très profonds, avec des strates, plein de strates d'aliments, enfin, incroyables. Même la première vraie recette avec un vrai chaudron profond, eh bien, elle date de 300 ans après Jésus-Christ. On la retrouve dans un livre, le seul livre de recettes romain, écrit enfin, d'un certain Apicius. Et on retrouve ce qu'on appelle, ce qui s'appelait une patina, ce qui était le mot de la tourtière, si vous voulez, l'équivalent. Et vous retrouvez un chaudron avec des abesses de pâte à l'intérieur qui garnissent le chaudron. Un appareil, on recouvre et même il y a dessus un trou pour laisser passer l'air avec un roseau. Hein. Mais on n'y mettait pas de l'orignal, etc. On y mettait apparemment ce qui était un régal de l'époque, de la vulve de truie. Alors, c'était pas tout à fait la même chose. On adorait aussi les tétines de truie dans ce temps-là. Enfin, il y avait des choses qui nous semblent maintenant totalement curieuses, mais n'empêche que la structure était tout à fait la même et que donc, d'une certaine façon, le plat, le concept, l'idée du plat dans sa structure existait. A existé très tôt. Et donc, ce qui changeait selon les lieux, c'était ce qu'on mettait dedans. Hein. La structure, elle ne changeait pas, parce que tout ça, une bonne cuisson à l'étouffée, ça faisait toujours plaisir, c'était chaud, c'était parfumé. Bon. Alors tout le monde savait reconnaître ce qu'étaient des bons arômes, mais la combinaison de ce qu'on y mettait était un peu variable selon justement l'écologie du lieu, ce qu'il y avait autour. Si on avait plus facilement accès à des... par exemple, les Italiens adoraient mettre des dattes. Ils mettaient par exemple dans leur tourte parménienne, ils mettaient beaucoup de cervelle et des dattes, mélangées avec des dattes. Alors, vous voyez que c'était assez différent, mais pour eux, c'était un vrai régal.
Est-ce que vous avez une prédiction, vous, personnellement, pour l'avenir de la tourtière au Québec? Est-ce qu'on va vraiment évoluer? Est-ce qu'on va l'essayer à toutes les sauces ou c'est une chasse gardée?
Ah, ben j'espère que la tourtière va évoluer. Je termine mon livre sur l'avenir de la tourtière au Québec. Alors là, c'est pareil, comme je veux vous encourager à le lire, je ne vais pas tout vous dire. Mais oui, je pense que ce serait souhaitable que la tourtière évolue. Ben, d'ailleurs, elle a toujours un peu évolué. À une époque, on ne mettait que certaines viandes. Par exemple, il y en a qui disent qu'on ne mettait que des viandes sauvages. Mais quand il n'y a pas eu assez de viandes sauvages, on a commencé à mettre des viandes domestiquées, du bœuf, du veau, du porc. Et puis, bon, des fois, au lac Saint-Jean, on met du lièvre. Ou alors, maintenant, c'est du lapin à la place. Donc, finalement, avec le temps, ça évolue. Et puis, mais on pourrait faire beaucoup mieux maintenant qu'on a des vrais chefs au Québec, des gens qui ont... Ben, je pense qu'on pourrait renouveler le répertoire de la tourtière, qui, je trouve, a l'air, surtout quand on va dans les supermarchés, on dirait des pauvres sarcophages pour la viande et pour nous. C'est triste. Je trouve que la tourtière est un peu figée, un peu glacée. Et je pense qu'un petit coup de jeune ferait que peut-être les jeunes aussi seraient un peu plus tentés de la remettre au goût du jour et il faut lui donner la chance de lutter contre les sushis, à mon avis.
Cas vécu. Si vous allez dans iTunes Store et que vous tapez « recettes » dans la petite boîte de recherche, c'est pas sur des chansons que vous allez d'abord tomber. C'est sur des applications pour iPhone et iPad comme le jeu Pocket Chef, les conseils pour cuisiner créole ou pour croquer la vie avec Nestlé, ou encore le livre numérique « Comment se soigner grâce au miel ». Mais bon, quand même, si vous continuez un peu vos recherches, vous allez finir par trouver des chansons où il est question de recettes, mais pas tout le temps des recettes de bouffe. En voici quelques-unes. Il vous manque une recette de sauce pour pâte dans la vie? Pas grave, prêtez une oreille à la chanson « Le spaghetti à papa » de la Québécoise Mara Tremblay pour en connaître les ingrédients. On vous les énumérera pas, là, mais sachez juste que selon la chanteuse, c'est ce qu'il y a de mieux pour sortir de l'ennui ou quand il n'y a plus rien à manger. Et puis, si ça sent bon dans la maison, ça veut dire que c'est prêt à manger, mais si ça sent le brûlé, alors là, ça veut dire que c'est pogné au fond et que ta sauce, là, ben tu l'as manqué.
Tu bats une casserole, tu mets du beurre dedans ou de l'huile d'olive vierge si t'aimes ça moins gros. Fais rôtir la viande, t'abrasses un petit peu, t'as des frais à brûler puis tu mets les oignons.
Dans un registre, disons, un peu plus ludique, le groupe d'humour Rock et Belles Oreilles nous donne la recette peu ragoûtante d'une sorte de giblotte douteuse dans « La chanson du Crestillon ». C'est le fameux personnage du chef Gros Lot, joué par Bruno Landry, qui nous dit que du bon manger, il est le cerveau, rien de moins. Mais qu'est-ce qu'on trouve donc dans ce fameux crastillon? C'est pas bien compliqué, vous allez voir. Il faut de la joudouane, de l'aspinouche, de la poutane, du picossé et de la roublette. Ah oui, puis surtout, n'oubliez pas un tout petit peu de teinture verte et de mélanger le tout vigoureusement pour que ça soit mou uniformément.
Rajoutez ensuite les ingrédients divers, des patates de mouche puis des petits vers de terre, ainsi que mes assaisonnements secrets qui ont avantage à rester secrets. Ah,
dans le dessin animé Astérix et Cléopâtre en 1968, on entend « Le pudding à l'arsenic », une chanson que le défunt groupe québécois Les Colocs a reprise dans les années 90. Parmi les ingrédients de ce dessert diabolique, on note la morphine, le pétrole, la bave de sangsue, le sang de lézard, le vitriol et bien sûr l'arsenic. Ça vous semble complètement dégueulasse tout ça? Ben, vous inquiétez pas, on presse quand même 3 quartiers d'orange pour adoucir le tout.
Dans un grand bol de strychnine, dilué de la morphine, faites tirer à la casserole un grand verre de pétrole. Je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non!
Dans le champ lexical, a choisi aujourd'hui une chanson du grand Serge Gainsbourg qu'il a enregistrée en 1958. Elle s'appelle « La recette de l'amour fou ». Mais c'est quoi au juste cette recette? Ben, il s'agit en fait d'une liste qui s'adresse aux femmes à la recherche de l'homme idéal, tout simplement. Elles doivent suivre des étapes bien précises pour la réussir, à la manière d'une vraie recette de grand chef, en commençant par introduire un cœur bien tendre dans un boudoir. Puis, elles doivent laisser leur homme se détendre sur le canapé, leur verser une larme de Porto et se mettre au piano pour jouer du Chopin avec dédain. Question d'attitude, ici. Mais, mesdames, attention surtout! Si l'homme en question s'endort, alors il n'y a pas d'autre solution possible, foutez-le dehors. Parole de Serge. La chanson a été reprise par la chanteuse Michèle Arnaud, une amie de Gainsbourg, et c'est cette version-là qu'on vous offre aujourd'hui. Alors préparez votre stylo et prenez des notes, parce que voici donc la recette de l'amour fou.
Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano. Jouez Chopin avec dédain. Égrenez vos accords et s'il s'endort, alors la mettez-le dehors. Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter 3 bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit sans vous trahir. Laissez frémir. Faites attendre encore et s'il s'endort, alors la mettez-le dehors. Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre. Tamisez toutes les lumières et sans attendre. Jouez la farce du grand amour, dites jamais, dites toujours et consommez sur canapé. Mais après les transports, ah, s'il s'endort, alors là, foutez-le de.
Parce qu'on ne se tente jamais d'entendre parler de recettes chinoises, cette semaine, c'est dans le Chinatown que j'ai été faire mon vox pop.
Le chien. En fait, il y a les chiens spéciaux pour manger. Comme ici, avec les cochons. Donc, on les nourrit, c'est pour le manger. Donc, plus tard, c'est faire comme la soupe, un peu comme ça.
Avec les chiens?
Ouais.
Puis est-ce que vous pouvez les faire griller comme sur le barbecue?
Non, je pense pas. Guillon, oui.
Quel goût que ça a?
Un peu comme du poulet. Moins gras.
Puis comment qu'on la prête?
On peut les griller, on peut les frire. C'est comme manger du poulet, là, et des cailles. Non, c'est santé, c'est parce qu'ils sont nourris à graines. Ils mangent pas de nourriture gras comme les cochons, alors... très bon pour
essayer
de maigrir, par exemple.
Le turtle, c'est super bon pour santé. C'est pas pour le normal people. C'est cher. Mais pour le toto, la soupe. C'est bon, bon, bon pour santé.
Oui, mais ici, si, avec la tortue, on le fait comme dans une soupe. Parce que la tortue, la viande de tortue, c'est pas vraiment tendre ou affaire. C'est plus pour l'essence du viande. Le reste, le serpent aussi, c'est toujours une soupe. Puis après, le restant, ben, peut-être les frits, les affaires, ben, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est dur à mâcher, là, on va dire. Ouais.
Mais qu'est-ce qu'ils font les personnes âgées qui ont des dentiers?
C'est ça pourquoi on le fait sur les soupes. Comme ça, ils boivent la soupe, ben, il y a l'essence du viande. C'est pas qu'on veut pas le faire, mais c'est à cause du gouvernement. Ils sont vraiment stricts sur la nourriture qu'on peut donner, genre, okay. Parce que c'est pour l'hygiène, là, on va dire. C'est plus réglementé qu'ailleurs du Québec, là. Même en Ontario, tu peux te retrouver ça, peut-être, mais ici, Québec, Montréal, il est vraiment strict. Il va pas laisser faire ça.
Oh, ça, je sais pas, les poissons vivants, comme qui avec une bouche qui bouge, mais les corps sont cuits.
Est-ce que tu connais le blowfish? C'est un des meilleurs poissons. Là. C'est un poisson. On a besoin du certificat pour cuisiner. Ça. Mais c'est très bon. Mais si tu connais pas, tu peux être mort. Texture, c'est pas comme élastique, mais c'est très très fort. Oui, et très cher aussi. Un blowfish comme ça, dans le restaurant, peut-être 20 000 yens, c'est comme 200 chaque portion. Pour acheter ça, mais si tu n'as pas de certificat, c'est comme gambling. Mange ou être mort, tu dois aller à l'école.
Et le mot de la fin par Cody.
When it looks bad, it probably tastes good. Et aussi, it smells bad, probably good.
And if you please to build you a boat, we can sail the seven.
dans Champ lexical cette semaine. On vous laisse avec cette citation de Théophile Gautier, très éclairée. Certainement, Dieu est très bon enfant d'avoir donné le vin à l'homme. Si j'avais été Dieu, j'en aurais gardé la recette pour moi seule. Revenez vous promener dans le champ lexical la semaine prochaine parce que le mot c'est « marche ».
Pour préparer à la maison le dans le champ lexical de cette semaine, il vous faudra une tasse de Joanie Larue et de Mathieu Charlebois bien conçue et réalisée, une cuillerée à thé de Pierre Duchesneau bien faisandée dans des chansons thématiques et marinée dans une biographie de Jeanne Benoît, un livre de Vox Pop d'Annie Rossano et une Nadine Mathurin revenue dans un texte humoristique. Brassez le tout et mettez dans le micro-ondes de CIBL pendant une heure. Si vous en voulez une autre portion, tous nos restants sont sur le web au danslechamplexical.com. Vous avez encore faim pour un dessert? Restez à l'antenne de CIBL puisque le DJ est une ordure suit dans un instant. Mais attention, ça va tout d'un hanche.